Aujourd'hui, on va vous parler d'une lame mystique qui aurait bien arrangé les familles royalistes au temps des guillotines. Bienvenue dans la 9ème dimension. Bienvenue, ça fait longtemps que je ne me suis pas retrouvé derrière un micro pour annoncer un nouveau podcast. Mon camarade Issam, ici présent, m'a volé ce droit légué par mes parents depuis ma naissance.
C'est pas du vol, c'est la loi du talent.
Pas du viol, c'est du... c'est pas du vol, c'est du plagiat. Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de la 9ème dimension, podcast qui abordera BD, manga, comics... Un titre par épisode. Je suis entouré d'Issam.
Comment vas-tu, Issam ? Tu veux dire qu'on va devoir changer le titre du podcast à chaque épisode ?
Non,
ça va vite être chiant, ça.
Ainsi que de Necronomicor.
Salut !
Que ça fait très longtemps que vous n'avez pas entendu avec nous. Car il était présent à l'époque de Casse sur Table. Du coup, podcast que l'on enterre définitivement aujourd'hui même.
Oui, bon, c'est ça, c'est une réitération.
Voilà. Voilà. Aujourd'hui...
Il a beaucoup souffert, hein. Il a fallu que je l'achève à coups de pied.
À coups de baramine.
Même dans la tombe, il bougeait.
Oh putain, merde.
Il y avait d'autres gens avec nous à l'époque. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? On les a sortis de la cave ?
Ah merde, c'était ça l'odeur. Alors.
C'est ça, je pense. Ouais, il va falloir y penser.
On a enterré,
Ah, mais c'est pour ça que j'ai vu des gyrophares défiler pendant des mois et des mois.
Bon, bah, maintenant que c'est fait, voilà, hein, mais faudra faire une petite place dans le jardin, quoi.
On n'a pas de jardin.
Bah dans les bacs à fleurs, il y a des bacs à compost, pas loin.
Où est-ce qu'on est intéressé si on n'a pas de jardin ?
Messieurs, comment allez-vous ?
Ça va, ça va.
Ça va. J'entretiens l'illusion qu'on enregistre un jour différent ou que c'est le troisième podcast qu'on enregistre aujourd'hui.
Écoute, nous sommes très productifs, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de Basketful of Head. Comics écrit par Joe Hill, dessiné par Léo Max et édité chez nous par Urban Comics et dans son pays d'origine aux États-Unis par DC Comics dans leur collection DC Black Label et également d'une autre collection, on va y revenir plus tard. Joe Hill.
Juste en passant, par rapport à Urban, ils éditent que du DC en fait, non ?
Non, ils éditent aussi du Image Comics, du IDW, un peu de tout.
Ouais.
Ils ont les droits pour DC Comics.
Ouais, donc c'est énormément de trucs, oui.
C'est énormément de choses. Mais non, ils éditent aussi du comics indépendant.
D'accord.
Venant de différentes maisons d'édition.
Oui, mais en plus, je le savais pour Image.
Donc on est d'accord que là, on va parler d'un comics où c'est les gens qui font du basket et qui rentrent les ballons et partent. C'était ça le titre.
C'est à peu près ça.
C'est le nouveau Head-Trick.
Du coup, c'est toi qui me remplace en tant que chroniqueur rigolo, je fais des jeux de mots.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est un spin-off d'Air Bud.
S'il vous plaît, essayez d'être drôle.
Non, si on commence à parler d'Air Bud, on est mal barré.
Donc, c'est une mini-série de 7 épisodes qui a commencé à être publiée en octobre 2019 et qui s'est achevée en mai 2020, écrit par Joe Hill, quelqu'un que Issam et moi connaissons bien, n'est-ce pas ?
Oui, c'est un peu un fils à papa,
voilà.
Hein, on va dire ça. C'est le fils d'un grand auteur, Joe Hill.
C'est le fils d'un auteur que nous abordons très souvent, Issam et moi, parce que c'est le fils de Stephen King.
Ah la vache, je savais pas du tout.
Et ben voilà, tu l'as découvert, du coup, c'est aujourd'hui que tu l'as découvert, parce ainsi que la France entière.
La famille de Stephen King, en vrai, je connais juste Tabitha Hill.
Tabitha King, ouais.
Tabitha King.
Et c'est tout.
Sa femme. Ouais.
Ben, il a 3 enfants, donc Joe Hill, Owen King, qui est aussi romancier.
Ouais.
Et Naomi King, qui, elle, n'est pas du tout dans le roman, elle est dans l'église, je sais plus. Révérend, elle est révérend.
Ah voilà. Ouais.
Bon. Le grand écart est incroyable. Digne d'un JCVD en grande forme.
Surtout quand tu connais le paternel concernant les causes sur les croyances, la religion en général, bon, c'est bizarre.
Bon, après, je crois que quand les gens ont leur religion sans...
Sans faire chier
sans
les
être
autres,
psychotique autour, il s'en fout, hein.
Ça ne le dérange pas. lui-même l'a été à une période religieuse.
Oui, bah, encore aujourd'hui, il est entre le cul entre deux chaises sur cette question, on en a déjà parlé. Hein.
Et si vous voulez vous amuser, faites une petite recherche Google Images, vous verrez, c'est vraiment son fils. Genre, il n'y a aucun doute là-dessus.
Ah oui, là.
C'est vraiment là, un clone. Ouais. C'est, tu mets Joe Hill et Stephen King l'un à côté de l'autre, c'est un clone. C'est vraiment la même tête, quoi. Avec des années d'écart, forcément, mais la même tête. Donc sa carrière, elle est lancée vraiment en 2007, avec la publication de son premier roman, Le Costume du Mort. Mais c'est surtout le lancement d'un comics qui va le faire connaître, puisque Joe Hill, c'est le scénariste derrière la série Lock and Key, édité par IDW. Lock and Key, c'est une série qui aura quand même beaucoup marqué les lecteurs, beaucoup marqué la critique, qui aura aussi connu plusieurs années après une adaptation sur Netflix, et qui s'achèvera en 2014. C'est une série qui effectivement a un peu marqué, qui sera revenue ensuite en 2015, puis en 2021, dernièrement, pour un crossover avec Sandman, le personnage créé par Neil Gaiman, un auteur aussi qu'on apprécie beaucoup autour des divers micros qui nous entourent.
Oui.
Pour vous dire à quel point Lock and Key, ça a beaucoup parlé avant même sa sortie, c'est une série que IDW vraiment a fait en sorte que ça cartonne, quand le premier épisode est sorti, quelques heures après la sortie, rupture de stock. Dès le premier jour,
ah oui.
Au premier épisode.
Donc, oui, ils avaient bien vendu leur voilà. Truc. Ouais.
Effectivement, c'est un début de carrière plutôt chouette. Mm. Quand tu arrives à
J'imagine qu'accessoirement, à l'époque, King avait dû participer à la promo et ça doit aider aussi, mine de rien.
Pour le coup, je ne sais pas. C'est fort possible que l'éditeur ait joué sur le fait que bah, c'est le fils de...
Ouais, non, mais King, même King, en faisant un tweet, un truc comme ça, ça a peut-être aidé, tu vois.
Et un petit push-up. Mmh. Hey, regardez, ouais. Regardez ce que mon gamin, il fait, c'est pas mal.
C'est une bonne guerre. Hein.
C'est pas mal. Après ça, il continuera à écrire des romans, dont un roman qui aura une adaptation par Alexandre Aja, Horn.
Oui.
Korn chez nous. Moi, je ne l'ai pas vu. Il me semble que toi, tu l'as vu, Issam.
Oui, moi, j'aime bien. Il y a un défaut de voix off trop présente pour expliquer le truc au lecteur, enfin au spectateur, qui est chiant. Mais sinon, le film est vraiment sympa et Daniel Radcliffe s'éclate dedans.
Donc c'est cool. Et puis, il continuera, bien entendu, l'écriture... de romans et de nouvelles, dont certaines avec son paternel, dont Dans les hautes herbes, qui a été adapté par Netflix il y a très peu de temps par Vincenzo Natali.
Ouais, et dont on a déjà parlé pour le coup dans l'autre podcast.
On a déjà traité dans notre podcast le vidéoclub de Castle Rock. C'est fou comme le monde est petit.
Et plus récemment, il y a aussi eu Black Fun, je sais pas quel est le titre français du roman, qui est donc adapté, qui a été adapté par. Par le réalisateur de Sinister, Scott Derrickson.
Le film de Derrickson, c'est une adaptation.
C'est une adaptation d'un bouquin de Joe Hill, ouais.
Tu vois, je ne le savais pas. Je ne l'ai pas vu en faisant mes recherches.
D'accord, bah si. Ouais. D'accord. Ou peut-être d'une nouvelle, hein, mais peut-être une nouvelle, mais c'est du Joe Hill.
Peut-être d'une nouvelle, parce qu'il n'a pas été. Pour l'instant, il a écrit 4 ou 5 romans.
Ouais, c'est possiblement une nouvelle.
Et depuis 2019, il collabore étroitement avec DC Comics. Pas seulement pour la série qu'on va aborder aujourd'hui, donc Basketful of Head, mais également pour un nouveau label au sein même de DC Comics, donc la Hill House, qui est un label qui ne va proposer que des séries, des mini-séries de 5, 6, 7 épisodes grand maximum, qui ne seront que des récits horrifiques que Joe Hill va totalement superviser en choisissant lui-même les scénaristes ou des fois en écrivant lui-même comme il l'a fait pour Basketful of Head ou pour Plunge, une autre série finira peut-être par aborder un jour.
Donc tu m'as dit que c'était bien, mais c'est pour très, le coup, bien. Très sérieux, hein, très sérieux business, c'est ce que tu m'en avais dit. Hein.
Plunge ?
Ouais.
Plunge, ouais. Et Plunge, c'est aussi beaucoup inspiré de l'œuvre de Lovecraft, ce qui n'est pas du tout le cas de Basketful of Head. Et je pense que justement, quand tu t'inspires de l'œuvre de Lovecraft, il faut quand même être un minimum sérieux business
oui.
Dans ta manière d'aborder l'horreur et de développer l'horreur. Si tu fais du Lovecraft... un petit peu par-dessus la jambe et en foutant de la comédie un petit peu partout, bon, je pense que ça a moins d'impact.
Eh, forcément, oui.
Forcément.
Quoique, c'est probablement faisable, hein, mais...
Non, j'essayais d'imaginer une œuvre de Lovecraft faite par...
par Jean-Marie...
de... Asylum ou des trucs comme ça.
Par l'équipe de Beamstar.
J'allais dire Jean-Marie Poiret, moi, mais...
Ah, quoi.
Avec Christian Clavier dans le rôle de Cthulhu.
Bah, ça pourrait être très très drôle, Cthulhu qui fait des petits pas de danse comme ça. Au dessin, on retrouve un dessinateur italien, Léo Max, de son vrai nom Massimiliano Leonardo, dit Léo Max, ce qui est quand même beaucoup plus simple à prononcer, nous en conviendrons.
Ça fait un peu nom de Médoc, par contre.
C'est vrai, c'est pas faux. Alors, c'est un auteur très connu dans son pays, en Italie, très peu en dehors. Il a fait très très peu de choses, que ce soit en BD franco-belge chez nous ou même aux États-Unis. En fait, il commence seulement à travailler là-bas. Alors que chez lui, il est connu pour son travail sur les séries Tex et Dylan Dog. Et pourquoi on va plutôt parler de ces deux œuvres-là ? Parce que c'est des œuvres très marquantes dans le paysage italien de la bande dessinée. Déjà, il faut savoir que l'Italie est un vrai pays de la bande dessinée. On parle souvent, on va parler souvent du Japon pour le côté manga, des États-Unis pour le comics et de la France pour la culture franco-belge qu'on a dans la bande dessinée. Les Italiens sont limite de plus gros consommateurs de bande dessinée que nous, en France on l'est. Il y a cette culture de la bande dessinée à pas cher, donc les bandes dessinées fumetti. Est-ce que vous savez à quoi ça ressemble ?
Oui, oui, moi je vois, oui.
Un fumetti, donc c'est une bande dessinée petit format, noir et blanc, une centaine de pages, à pas cher. C'est, même encore aujourd'hui, un fumetti, c'est 4,50€, 5€ grand maximum. Tex, Dylan Dog, c'est des pierres angulaires de la bande dessinée italienne. C'est-à-dire que Dylan Dog, c'est une série qui existe depuis 1986, qui a été adaptée d'ailleurs au cinéma dans une adaptation totalement nulle, vous pouvez totalement zapper, qui raconte l'histoire d'un détective du surnaturel britannique. Donc c'est une série très fantastico-horrifique qui existe depuis 1986 et qui est toujours en cours actuellement, qui compte un peu plus de 430 tomes à l'heure actuelle. Mais du coup, 430 tomes fumetti. Donc, c'est-à-dire que c'est un rythme mensuel, ce qui est quand même assez impressionnant, parce que les mecs enquillent une centaine de pages tous les mois, il faut quand même les tenir. Et Tex, qui elle est une série western où on suit un personnage donc du nom de Tex qui est shérif qui fait régner la loi comme il l'entend, forcément très culture western spaghetti. Elle, c'est une série qui existe depuis les années 1940, qui est toujours en cours.
Ah oui, donc c'est pas lui qui l'a lancé.
Non, c'est pas lui qui l'a lancé. Oui, forcément.
tandis que l'autre, c'est une création de lui.
Il a juste participé aussi.
D'accord.
Et donc Tex, elle compte elle a dépassé, il me semble, là, dernièrement, les 740 volumes. Commence à faire aussi, c'est un peu leur amour, leur et beauté à eux.
Mais finalement, j'aurais imaginé plus, vu qu'en ayant 40 ans de moins, Dylan Dog en est à 400 tomes.
Alors que Tex, en fait, par contre, a eu des relancements et d'autres séries annexes qui, à un moment, arrivaient, et donc l'autre série s'arrêtait, et voilà. Il y a eu plusieurs séries Tex.
Ouais.
Et, du coup, pour en venir à vraiment un ordre d'idée en termes de vente, Tex, tous les mois, c'est environ 250 000 exemplaires sur le sol italien.
C'est un truc qu'il faudrait que je découvre. Mais c'est pas un peu une collection en France comme Evil France ou Elvie France, ils éditaient un peu ça en fait finalement, c'était des traductions de des fumetti.
À peu près, sauf que Elvie France c'était vraiment plus la branche érotico.
Oui, c'était un peu spécialisé.
Mais, voilà, c'est à peu près le même format effectivement. Et du coup pour les trouver en France c'est compliqué parce que des séries aussi longues que ça, ça a très peu été édité ou de manière très partielle. Finalement, Tex et Dylan Dog, c'est quasiment introuvable.
Après, je parle un peu italien, moi, donc ça va.
Panini en a sorti quelques-uns, pas les Tex, les Dylan Dog. Mais c'est quand même assez, assez compliqué à trouver.
Par contre, j'imagine que dans les versions italiennes, tu les trouves par brouette de 50.
Oui, à mon avis, oui. Donc voilà, Léo Max, c'est surtout ça. C'est surtout une carrière très connue dans son pays natal, en Italie. Même si, avec Basket Full of Head, DC Comics commence à lui proposer plusieurs autres projets, puisque là, il vient d'achever avec Joshua Williamson une série sur les Rogues. Les Rogues, c'est c'est un groupuscule d'ennemis de Flash qui s'est réuni. Chez nous, il s'appelle les Lascars. Et j'adore cette traduction. Les Lascars. Voilà.
Les Lascars, qui était une série animée qu'on pouvait trouver à la télé. Qui n'a rien à voir.
Dont le film est très cool, petite parenthèse. Le film Les Lascars est vraiment chouette. Et donc voilà, il est grand temps de rentrer à fond dans le sujet et d'aborder totalement Basketful of Head. Basket Full of Head, où on va suivre l'histoire d'une petite nana qui s'appelle June Branch, qui profite avec son petit ami de l'absence de ses parents pour passer une soirée tranquille. Tranquille, vous avez bien vu les guillemets qui se sont ouverts au-dessus de ma tête.
Est-ce que la soirée est gâchée?
La soirée finit malencontreusement gâchée quand un groupe d'évadés, il me semble que c'est des évadés de prison, évadés de prison qui débarquent chez eux, enfin chez les parents du coup. Et
il y a Morgan Freeman dans le groupe d'ailleurs, dans les évadés.
Et ça tourne cacao. Je vais pas trop en dire, on va développer un petit peu tout ça au fur et à mesure. C'est le tâton de cacao qui te fait rire?
Ouais, c'est ça, en fait, il y a Morgan Freeman.
Oh non, non. Celle-là, c'est les blagues de Hans, normalement, non.
Vous osez, là.
Oh non. Non, t'as pas le droit de dire ça. Donc, on avertit quand même. C'est un avertissement que j'aurais dû faire en début de podcast. On va spoiler. Et ça va être le but, en fait, de chaque épisode de la 9ème dimension, ça va être de spoiler. On n'est pas là pour cacher des trucs, on est là pour dire vraiment ce qu'on a pensé d'une œuvre. Et pour parler librement d'une œuvre, il faut aborder tout ce qu'elle aborde et donc en parler sans porte fermée. Donc, spoiler free, on y va.
Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est faire une mise en bouche au début et puis après dire bon, là par contre, ça va, là c'est les plots importants. Et,
après, au vidéoclub, on s'en branle. Hein. Ouais, le respect de l'auditeur, hein. ça fait longtemps qu'on s'est assis dessus.
Oh, bah, voilà, donc vous avez compris. Hein.
Messieurs, il est grand temps de connaître votre avis sur Basket Full of Head. Qui veut s'y coller en premier?
Bon, vas-y.
Bon, bah c'est parti. Alors, œuvre très bien dessinée, avec des personnages qui, bon, des fois manquent franchement de finesse. Mais à côté de ça, il y a un petit côté... vraiment, le dessin apporte beaucoup. Et les ambiances données apportent beaucoup. Il y a une très bonne gestion de tout ce qui est ambiance nuit, ambiance jour, les intérieurs, les expressions faciales, tout est bien géré. Du coup, ça permet de passer un bon moment à la lecture. Et ça passe très vite. C'est vraiment la lecture, ça se lit en très peu de temps et on n'a pas l'impression d'avoir perdu son temps malgré une histoire assez simple au final. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir... lu la retranscription d'un épisode de comment ça s'appelait,
quatrième dimension,
Les Contes de la Crypte.
Ah oui, c'est dans le même
un bon épisode des Contes de la Crypte en comics. Voilà.
Issam.
Bah, le sentiment Contes de la Crypte, effectivement, totalement, on retrouve ça. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'aime bien déjà graphiquement, en effet, il y a un travail qui donne un côté un peu cartoon, mais cartoon adulte, qui fonctionne très bien pour ce type d'histoire. Et le récit est simple, effectivement, les personnages sont plutôt... sont en un bloc, mais ça fonctionne bien vu ce que ça veut raconter, au final, vu que c'est juste une histoire d'horreur un peu fun. Il n'y a pas forcément l'idée de creuser à fond les personnages sortis de l'héroïne. C'est très rythmé, je trouve qu'il y arrive à y avoir des... à la fois des passages comiques avec tout ce qui tourne autour des têtes coupées qui sont complètement ridicules, et quelques rebondissements qui ont marché sur la fin, sur les deux derniers épisodes, j'imagine, à peu près, autour, notamment quand on découvre que le petit ami, l'héroïne, trempe un peu dans tous ces trafics aussi. Ça a marché pour moi.
Ouais, moi aussi.
Donc voilà, c'est fun, ça se lit bien, ça se lit vite, c'est drôle. Très bon moment.
Les points vraiment importants que vous avez cités et que je retiens, c'est vraiment rythme, parce que vraiment c'est un tambour battant, comme tu l'as dit, Nécro, c'est la lecture passe ultra vite, t'es pris dedans, alors que c'est très verbeux.
Oui.
Et justement, c'est à souligner, c'est très verbeux, mais c'est tellement maîtrisé que ça passe tout seul, et que t'es emporté dans le rythme et tu vois pas du tout le temps passer. C'est vraiment une série, enfin une mini-série, que t'enchaînes comme ça, sans déplaisir. C'est vraiment... Et effectivement, le côté Conte de la Crypte, comme tu l'as dit, à mon avis, c'est clairement voulu. Parce que oui, ça se veut totalement fun, quoi. ça se veut totalement fun, sans prise de tête, on est là pour le kiff et voilà, on y va quoi. C'est vraiment un roller coaster format comics.
Et du coup, ça me fait penser un petit peu même à un film, le film Creepshow, où il y avait Stephen King qui avait participé en tant qu'acteur sur une histoire de météorite. Et oui. Du coup, oui, c'est vraiment cette ambiance, malgré le fait que ce soit pas le bayou, il y a une petite ambiance bayou derrière, alors qu'on a des décors ensoleillés avec des maisons impeccables, avec des lattes blanches, enfin, c'est bizarre.
Mm, ah, c'est le côté Amérique profonde, je pense, qui fait ça. Mm.
Et donc oui, ce que j'ai pas dit volontairement du coup dans mon pitch, c'est qu'est-ce qui se passe quand cette jeune femme prend une hache nordique, d'origine nordique, et se met à décapiter les gens. Et bien il se passe que les têtes sont encore vivantes. Et, mine de rien, alors que c'est le plot twist principal du récit, il n'arrive qu'à la fin du deuxième épisode. Là où, en général, un plot twist comme ça, c'est quelque chose que tu balances très très tôt dans ton intrigue, justement pour accrocher le lecteur. Alors que le premier épisode se termine avec l'arrivée des évadés. Mmh. Et ton plot twist n'est même pas encore installé. C'est dire si, en fait, le duo savait qu'ils allaient réussir à t'accrocher dès le début. Rien que par l'ambiance, rien que par les dessins, rien que par le dialogue, ils étaient déjà persuadés de réussir à t'accrocher, même sans mettre le fameux thème principal du récit.
Oui.
Alors, le fantastique est abordé assez tôt dans l'histoire, parce qu'on voit que la hache réagit au passage des personnages. Donc, en fait, il y a un... Pour exprimer, la hache est une hache nordique avec un symbole, un peu de ramification, qui rougit quand elle apporte des pouvoirs, en fait, finalement, à son porteur. Alors, des pouvoirs un peu variés, parce qu'on a parlé de la décapitation, mais il y a aussi une force accrue, il y a la possibilité de respirer sous... Enfin, il y a des trucs un peu bizarres. Mmh. Il y a juste une sorte de petit teasing, et après, c'est on passe à autre chose, on verra ça plus tard.
C'est ça. C'est, pour moi, ça montre vraiment une maîtrise, en fait, de la narration, et il se doutait que tu allais ne pas arrêter ta lecture à la fin du premier épisode.
Et peut-être un truc hérité aussi par Joel de son père, qui est un habitué des intrigues qui traînent pendant 100 pages avant d'avoir l'élément perturbateur.
C'est vrai. C'est vrai. Comme vous l'avez dit, visuellement, c'est ultra joli. Vraiment. Je ne sais plus lequel, je crois que c'était Necro qui l'avait dit, qui avait souligné la maîtrise au niveau des jeux des ombres et de lumière. Mmh. C'est vraiment ultra joli, quoi.
Parce que ça, c'est un truc qu'on trouve des fois, c'est un des gros points noirs des fois de certains comics, où des fois c'est juste dégueulasse. C'est bien dessiné, mais bon, la colorimétrie, bon. Mais non, là, il n'y a pas de faute de ton.
Oui.
Les palettes sont parfaites, enfin, c'est bien. Le début, on est sur un pont où il pleut de façon dégueulasse, une grosse drache. Et on la ressent. On la ressent parfaitement. Et juste après, en contraste, on a un temps fin d'été, impeccable, ensoleillé. Même l'héroïne dit que même les débris métalliques qui sont dans le point d'eau, qui est sous le pont, des canettes à la con, rendent joli avec un soleil comme celui-là. Mm. Donc, bonne maîtrise.
Non, je regardais un peu, mais je suis d'accord avec ce qu'il a dit pour le moment.
Ça me refait.
Je signale
plaisir,
juste que les couleurs sont de Dave Stewart.
Oui.
Voilà, plus qu'on parlait de ce travail-là.
Bon, bah bravo.
Ça me refeuillette avec plaisir.
Un truc qui me fait rire aussi, c'est alors, c'est pas vraiment les couvertures, parce que c'est à l'intérieur des chapitres, mais il y a à chaque fois une page titre, on va dire, et avec les doigts des cadavres qui forment les chiffres. De manière assez rigolote, souvent. Voilà. C'est un gag qui m'a fait rire.
Ce qui est très très drôle, c'est vraiment la relation entre toutes les têtes qui sont mises dans le panier les unes après les autres, qui, au final, ne sont plus que des têtes, donc, mis à part s'engueuler, elles ne peuvent plus faire grand-chose, mais elles s'en donnent à cœur joie.
De toute façon, dès les toutes premières pages, il y en a une qui mord l'oreille d'un autre. Enfin, voilà,
Faut bien s'occuper. Hein.
quand t'es plus qu'une tête.
Ouais, voilà.
Finalement. Est-ce que l'un de vous a quelque chose à rajouter sur Basket Full of Head?
Moi, là, a priori, non. Bon, évidemment, vu ce qu'on en a dit, c'est à réserver un public un peu averti, quand
oui,
même.
Oui, clairement. Clairement. C'est pas à mettre entre toutes les mains.
Ouais.
Même si, bon, c'est quand même abordé de manière assez cartoon.
Oui.
Donc c'est pas non plus... c'est pas du gore pour du gore ou du trash pour du trash. C'est quand même abordé de manière plutôt rigolote.
Bah, je pense qu'on peut retrouver un peu justement le côté Fumetti. C'est peut-être pour ça que Joe Hill a choisi Léo Max. On sait pourquoi il est allé vers un auteur italien comme ça.
Pas du tout. En tout cas, je ne sais pas.
Moi, je peux préciser un truc sur le personnage principal,
ouais,
qui est montré comme très chaude de la truffe au début, ne serait-ce qu'au niveau des dialogues, les, la façon dont elle se sape, dont elle en joue, ne serait-ce qu'avec son copain, et qui n'est pas sexualisé en fait sur le reste de l'histoire. C'est, j'ai trouvé ça plutôt appréciable.
Mmh.
C'est, y a même pas, je veux dire, la petite scène un peu chaude du milieu, histoire de reprendre l'attention. Non, que dalle.
Ouais.
C'est, plus ça avance, plus elle, finalement elle devient badass et puis elle assume complètement son rôle de décapiteuse. Voilà, c'est.
Oui, bah totalement avec la toute fin d'ailleurs,
oui,
vu que finalement elle tue son petit ami et elle s'en va.
Puis,
triomphante.
Voilà, c'est ça.
Puis alors voilà, le regard complètement désabusé. Mmh. Wow, bah, lui aussi.
C'est ça. Elle bazarde la hache à la fin.
Ouais, elle la bazarde dans la flotte.
Mmh.
Mais hache qui a toujours le motif rouge pétant qui indique que bah, elle est encore active, elle est encore liée à cette hache.
Mais il n'y a pas eu une espèce de suite d'ailleurs chez...
C'était la conclusion de ce podcast, on va pouvoir s'y diriger. Alors c'est dommage parce que du coup la conclusion normalement aurait dû sortir hier. En librairie, mais comme vous le savez, il y a des petites pénuries de papier en ce moment qui compliquent la vie de nombreux éditeurs. Et du coup, la sortie est repoussée à la semaine prochaine. Ça va, c'est pas un report. Mais la suite, oui, une suite sort du coup le 17 octobre, toujours édité par DC Comics, toujours édité par Urban Comics chez nous. Pas du tout avec la même équipe créatrice. C'est plus du tout Hill. Enfin, Hill supervise en tant que superviseur du label Hill House. C'est plus du tout Léo Max non plus au dessin. Là, ce sera un auteur américain sur le dessin. Et la suite a pour titre Refrigerator of Head. Cette fois-ci, les têtes seront foutues dans un réfrigérateur.
Oh, bah, on sent un thème récurrent.
La hache, alors le pitch, je m'en suis caché du pitch justement. Pour. Je me suis dit. Basketful of Head, j'avais lu le pitch. Pour vous faire un petit brief, j'avais lu le pitch, ça m'avait intéressé, je me suis dit, tiens, je vais le lire. Quand je l'ai fait lire à Issam, je lui ai dit, surtout, tu ne lis pas le pitch, tu ne lis pas le résumé, pour garder la surprise intacte. Et je pense que ça fait partie de ce genre de récit où c'est mieux, vraiment, quand quelqu'un te conseille
oui,
de le lire.
Oui, ça ajoute un petit quelque chose,
voilà,
effectivement, d'avoir la surprise.
D'avoir la surprise de la hache qui agit comme ça, tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Bah, moi, c'est quand déjà il y a le palier qui parle avec deux voix différentes, je suis bon là, c'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de dire?
Et donc, je fais pareil pour Réfrigérateur, en fait, que je me prendrai, du coup, mais que je me garde pour l'instant de tout résumer. Je sais juste que, du coup, c'est d'autres personnages qui récupèrent la hache, et que, bah, au vu du titre et de la cover, les têtes finiront dans le réfrigérateur. Voilà.
J'ai vu les couvertures originales qui sont très belles. Ouais. C'est d'une personne appelée, probablement, plutôt féminin comme nom, Reiko Murakami. Tu vois qui c'est
hein? Une autrice, du coup, d'origine japonaise, ou même, il me semble, japonaise,
ouais,
qui a l'habitude de faire des covers pour divers éditeurs comics.
D'accord.
Un petit peu comme l'autrice de l'Atelier des Sorciers.
Ouais, mais justement, je me demandais si elle avait fait des trucs autres que covers.
De mémoire, non.
Mm.
Tout comme, du coup, bah, comment elle s'appelle déjà l'autrice de l'Atelier des Sorciers?
Kamome Shirahama.
Voilà, qui, ouais, elle fait des covers alternatives chez Marvel. De temps en temps, surtout pour Star Wars, j'aime beaucoup en faire pour Star Wars, sur Dr. Aphra et des fois pour la série Dark Vador.
D'accord.
Est-ce qu'on peut dire, sans trop se tromper, que Basketful of Head, c'était quand même une putain de bonne lecture?
Ouais, ouais, vraiment très bien, ouais.
Ton collègue aimerait bien avoir la BD dans les mains.
Pardon.
Merci.
La prochaine fois, il faudra s'organiser à ce que tout le monde puisse se voir.
Bah, la prochaine fois, il a qu'à acheter à Sienne aussi.
Je te rappelle que tu ne l'as pas acheté, c'est moi qui te l'ai offert.
Bah, il a qu'à se faire offrir à Sienne.
Basketful of Head, c'est vraiment une lecture du coup qu'on a beaucoup appréciée tous les trois. Moi, ça a été l'une de mes lectures préférées de l'année de sortie. Je crois qu'il est sorti en 2020 chez nous. Non, 2021. C'est 2000, parce que ça s'est achevé en 2020 aux États-Unis et sorti en 2021 chez nous. Donc voilà, c'est une lecture que je recommande beaucoup, que ce soit du coup ici en podcast ou aux gens que je croise dans la vraie vie véritable.
Il aborde des gens dans la rue au hasard. Lisez au Basket Full of Heads. Ça... Mais j'ai 3 ans, on s'en fout, lis-le.
Ça peut m'arriver. Et ça sera les mêmes conseils pour la BD que nous aborderons dans le prochain épisode. On va l'annoncer tout de suite, parce que le prochain épisode est consacré à un monument du manga horrifique japonais, puisqu'on va se concentrer sur Spirale de Junji Ito.
En plus, il faut en parler, là, parce qu'en fait, il lance sa collection de NFT.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Non, mais c'est vrai.
C'est vrai.
Non.
Si.
Oh, j'arrête ce podcast.
Faut que je suive où en est le film d'animation Spirale. Il est décalé depuis je sais pas combien de temps. On en reparlera en temps voulu.
Il y a une nouvelle. Par contre, il y a une manga, je crois, qui va être de Junji Ito, qui va être adapté en animé prochainement, il me semble.
C'est possible, mais il y a déjà un film Spirale pour le coup que je dois avoir qui traîne quelque part.
Y a ouais, des
si ça vous intéresse.
Ouais,
mais j'ai le film en entier quelque part.
Un film live pour le coup, parce que le prochain ça va être en animé. Voilà.
Et l'animation avec les dessins de cet auteur-là, ça passe plutôt bien. J'ai vu ce que ça donnait et oui, non, t'es pas bien. C'est-à-dire que rien que par le concept, t'es pas bien, mais en plus... En
ouais, mais je crois que c'est Spirale, justement, et que c'est décalé depuis des mois et des mois, en fait, comme projet.
Eh ben, nous en parlerons le mois prochain, parce qu'il est grand temps de rendre l'antenne, comme disaient les vieux d'antan,
qu'on n'a
pas
de
capacité avec une lame magique. Qu'est-ce que tu dis ?
Rien. tu verras au replay.
Issam, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Vous pouvez me retrouver déjà avec toi dans un autre podcast, le Vidéoclub de Castle Rock, toutes les 2 semaines, les mercredis normalement, donc n'hésitez pas.
C'est quand même beaucoup moins bien.
Moi je trouve ça globalement supérieur. Hein. En tout, il y a déjà plus de 50 épisodes, c'est quand même un signe de qualité.
C'est vrai, mais pour l'instant personne ne nous donne d'argent encore.
Non.
On n'a pas encore ouvert de cagnotte Patreon, ouais, c'est peut-être pour ça.
Ça peut jouer.
Va falloir.
On va lancer aussi notre projet de NFT.
Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @cinémarchiviste, toi, @Chris, _LostTales.
Ah, c'est bien, j'adore quand on inverse les rôles comme ça, ça me donne du pouvoir un peu pour une fois.
@Necronomicor, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
C'est bien ça.
Voilà, @Necronomicor.
Puisque notre ami Necronomicor, on ne peut te retrouver pour l'instant que sur Twitter.
Et dans ce podcast.
C'est dans ce podcast.
Fait 2 endroits. Mmh.
C'est vrai.
C'est déjà bien.
C'est vrai. Peut-être un troisième avec peut-être un retour un jour d'un podcast cinéma, on verra, on n'en est pas encore là. On a déjà galéré à ramener celui-là, les gars, il va falloir qu'on se fasse des week-ends entiers dans le
jeu. Faut qu'on y réfléchisse quand même.
Voilà. Messieurs, merci de m'avoir accompagné pour cette première de la 9e dimension.
Bah merci à toi.
J'espère vous retrouver tous les deux en forme le mois prochain.
Ouais.
Vous m'avez l'air très réveillé.
Moi j'attends la paye.
Ah, il n'y en a pas.
Ah. Bon bah non.
T'es payé en lecture, c'est déjà pas
mal. Ouais, va falloir me remplacer. Hein.
On se retrouve dans un mois pour parler de Spirale. Et en attendant, de bonnes lectures.
Je pensais quand même vendre les droits à Marvel de nos podcasts pour en faire une adaptation cinéma.
Coupe.